Bonjour, bon après-midi et bienvenue dans ce groupe de partage autour des enseignements non duels, autour de l'unité, autour de tout ce qui nous dit sous beaucoup de formes différentes « nous sommes un » ou dit sous une autre forme « Dieu est » ou « Dieu est tout ce qui est ». Voilà, nous sommes le samedi 13 octobre 2012 et j'accueille et je souhaite la bienvenue à tous les nombreux frères et sœurs qui en ce moment écoutent avec nous, sont dans notre groupe et d'ores et déjà représentent un groupe bien plus grand qu'il n'y paraît. Je vais nous inviter aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier, non seulement à écouter un gong, mais à faire suivre ce gong d'une petite minute de centration, et dans laquelle je nous invite à être avec Sylvain, qui est en ce moment, Sylvain Duboulet, qui est en ce moment aux États-Unis dans un rassemblement Miracle dans les montagnes, qui rassemble toutes les personnes qui ont écrit des livres en relation avec un cours en miracle, après le cours en miracle. Donc Gary Renard, Sylvain Duboulet, Jayem et d'autres, Brent Haskell. Sylvain nous a demandé de nous joindre à lui par la pensée du 12 au 18, c'est l'étendue de son séjour spirituel là-bas. Donc voilà, si vous le sentez, une petite minute où nous sommes dans notre cœur et nous nous joignons à ce rassemblement après le gong. Merci. Voilà, ce qui me vient de dire immédiatement, c'est que je sens que nous sommes à une période où les rassemblements se multiplient et ont une importance de plus en plus grande. Très récemment, dans un texte canalisé de Maitreya, qui est d'une beauté très grande pour moi, il m'a beaucoup touché, il disait « Réunissez-vous, rassemblez-vous, regroupez-vous. Vous n'avez pas idée de la puissance de tel rassemblement. » Voilà, c'est pour ça qu'il y a Il y a eu en mai un grand rassemblement organisé par Ariane à Toulouse avec 2000 personnes et Pierre Lessard qui canalisait en direct le maître Saint-Germain. Il y a ce rassemblement Miracle dans les montagnes. Il y a notre rassemblement aujourd'hui qui en fait témoigne du fait que lorsque nous joignons nos esprits, lorsque nous mettons nos intentions ensemble, leur pouvoir se démultiplie. Hein, et c'est possible beaucoup plus facilement de se baser sur ce soutien mutuel pour laisser les égos se reposer et pour laisser la partie vraie de notre esprit être pleinement et nous inspirer. C'est pour ça que nous pouvons avoir des paroles beaucoup plus inspirées lorsque nous sommes tranquilles et lorsque nous nous rassemblons au nom de l'amour. Quelqu'un disait cette belle phrase, c'est quelqu'un d'inconnu, parce que j'ai entendu cette phrase à l'occasion d'un concert spirituel à Trimurti. Il disait, le thème de la réunion d'aujourd'hui, c'est l'amour. Le thème de la réunion de demain, c'est l'amour. Et le thème de la réunion de chaque jour jusqu'à la fin de vos jours, c'est l'amour. Parce qu'il n'y a que l'amour. Hein. Ça, c'est moi qui rajoute. Ça m'a touché, c'est vrai, après tout. Chaque fois qu'on se réunit, c'est au nom de l'amour. Hein, et nous n'avons pas de pensée en vain. Hein. Ces pensées-là sont créatrices et sont toujours suivies d'effets. Que ces effets soient ou non décalés dans le temps, nos pensées portent une énergie très puissante. Voilà. Je ressens ça profondément, je le dis sans aucune preuve. Puisque les preuves ne sont pas du domaine de l'intuition, mais plutôt du mental qui veut saisir les choses. Et celui-là, je l'invite à se calmer. Tu te calmes. Va ranger ta chambre. Ouais, ça pourrait être presque être ça, hein, parce que la chambre de l'ego est très désordonnée, comme ses pensées. Mais voilà, l'ego n'est pas jugé, l'ego a un rôle à jouer. Et notre rôle, c'est qu'il n'outrepasse pas ses droits et qu'il reste, qu'il remplisse sa fonction et seulement sa fonction, qui est de gérer le corps, protéger le corps, faire en sorte que la vie sous la forme humaine perdure pour être un théâtre d'expérience. Pour revenir à notre seul et unique but, c'est être un avec Dieu. Alors d'emblée, le mot Dieu n'est pas un mot à connotation religieuse. Je le dis souvent, mais il semble utile de le répéter. Celui ou celle qui le souhaite peut remplacer ce mot par tous les synonymes qui pour lui ou elle ont un sens, comme la source, comme toute l'existence, comme l'univers, comme la partie élevée de moi-même. Voilà. Dieu n'est pas une personne, n'est pas anthropomorphique, c'est la totalité de tout ce qui existe, indivisible. Alors notre vie sur Terre essaye de démontrer le contraire, mais c'est ça hein, le but de cette réunion. C'est rassembler ce qui semble être divisé. Et c'est en effet quelque chose qui semble se passer, mais dont un cours en miracle, précisément à la page 629, on en parlait tout à l'heure avant le début du groupe, précise l'origine de l'idée de séparation qu'il qualifie d'idée folle, puisque c'est une idée... une pensée qui ne peut pas avoir d'effet réel, qui ne peut pas s'être passée réellement. Nous avons imaginé que nous pouvions être séparément de Dieu, ou opposés à l'amour, ou en dehors de l'amour, Et comme Dieu est tout ce qui est, eh bien, ce n'est pas possible, alors nous l'avons juste rêvé, imaginé. Nous avons construit une vie humaine entièrement basée sur un rêve. Et dans cette vie, nous sommes le héros de ce rêve, parce qu'en effet, tout semble bouger autour de nous, et la seule chose constante, c'est nous, dans cette vie. Nous sommes au centre de tout ce qui se passe pour nous. Ça nous paraît évident, mais en vérité, vu comme ça, nous sommes le héros principal du film que nous jouons. Il y a le générique, hein. Acteur principal, moi. Et c'est vrai pour chaque humain. Voilà, au-delà de ce générique, il y a le monde réel, il y a l'unité, et un des rôles de cette dualité, c'est de nous rappeler que ce monde-là n'est pas réel, qu'il nous sert comme piédestal pour revenir au monde réel. Alors, quand nous disons Dieu est tout ce qui est, naturellement, Dieu ne s'oppose jamais à rien, puisqu'il est tout. Ne s'opposant pas à rien, il est pur accueil. Et donc, il dit toujours d'accord. Hein, Dieu ne s'oppose jamais à rien. C'est important, puisque parfois, nous avons idée que Dieu pourrait juger ce que nous disons ou ce que nous faisons, pourrait être en colère, ou tout ça, ce sont des caractéristiques humaines qui n'existent pas dans le monde de l'unité. Et donc nous projetons sur Dieu notre propre peur, notre propre colère, notre propre agacement, courroux. Et en fait, Dieu, lui, dit toujours, fais ce que tu veux. Fais ton expérience, tu as ma bénédiction. Tire les leçons de ton expérience, et si la leçon de ton expérience, c'est la souffrance, tire la leçon de la souffrance. Parce qu'on en parlait également tout à l'heure, la leçon de la souffrance, c'est d'évoluer jusqu'à ce que la souffrance ne soit plus nécessaire. La souffrance est un outil, un levier, un piédestal, un tremplin pour apprendre des choses. Lorsque les choses sont apprises, il n'y a plus besoin de souffrir. Le couple est un excellent moyen, pas pour souffrir, mais pour apprendre, mais parfois ça passe par la souffrance. Mais il n'y a pas que le couple, hein, bien sûr. Il y a aussi les maladies. Hein. Alors, bien que ça paraisse incompréhensible et parfois même révoltant pour certains, nous créons nos maladies, nous créons notre cancer, nous créons aussi notre mort. Nous créons chaque instant où nous semblons souffrir, simplement pour nous procurer une occasion de progresser, mais de progresser en apparence, parce qu'il n'y a pas à progresser dans l'unité. L'unité est inchangeable, stable, permanente. C'est comme un cinéma. Hein. On peut venir au milieu, c'est toujours le début. Hein. C'est toujours le film, on voit toujours le film en entier. Dans mon enfance, les cinémas étaient permanents. C'est-à-dire que le film, après la fin, recommençait au début. Et donc, je me rappelle avoir assisté à des séances où j'entrais au milieu du film. Au début, ça ne me dérangeait pas. Mais je voyais la fin, et puis après, je voyais le début. Et puis, je pouvais voir trois fois le film, si je voulais, parce que c'était permanent. Donc, c'est aussi l'état de l'unité. Elle est permanente, elle est stable. Et le début et la fin sont confondus, puisqu'il n'y en a pas en vérité, puisqu'il n'y a pas non plus de temps. Donc, notre vie humaine, semble-t-il, est un facteur pour évoluer rapidement. Et c'est pour ça qu'il y a la dualité. Parce que l'évolution se passe en dehors de l'incarnation humaine, dans des sphères plus éthériques, où il n'y a pas de corps, en tant qu'esprit. Esprit qui est quand même divisé, mais qui n'est pas dans les défis importants de la dualité. Les défis de la dualité sont si importants, semble-t-il, hein, pour les êtres qui nous communiquent cela, par voie de canalisation, que l'évolution est la plus rapide possible en dehors de, dans le rêve, hein, disons, quand je voulais dire en dehors de l'unité, mais dans le rêve, ça me semble être plus parlant. Et donc, il y a de la queue au portillon d'attente pour entrer dans le monde de la dualité. Il y a une foule innombrable d'esprits qui font la queue pour attendre, pour s'incarner dans notre monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a des occasions d'évoluer à une vitesse qui n'existe nulle part ailleurs dans l'univers. Et c'est pour ça qu'actuellement, on nous dit aussi que les yeux sont braqués sur la Terre, parce qu'elle est le théâtre d'une évolution sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité. Que nous arrivons à une forme de conclusion du grand jeu de la dualité, et que cette conclusion, tous ceux qui se sont incarnés, qui écoutent en ce moment l'enregistrement, et d'une manière générale qui sont incarnés sur Terre en ce moment, ont réservé leur place pour être là pour le grand feu d'artifice final. Le bouquet final, qui sera de toutes les couleurs. Enfin, ça, j'en sais rien. Je blague un petit peu. Donc, c'est quoi ce feu d'artifice ? C'est nous avons joué et rejoué. Nous avons joué les rôles divers et variés de victimes, de bourreaux, d'assassins, de meurtriers, de saints, de personnes ordinaires aussi, de personnes lambda. Peut-être même des rôles d'animaux, de plantes, va savoir, des rôles de... Paraît-il que nous pouvons nous incarner en tant que montagne pendant des siècles et des siècles pour apprendre ce que c'est que quelque chose de posé, de stable. Nous pouvons nous incarner en tant qu'océan pour et faire l'expérience de la fluidité de l'eau. Ça me paraît très parlant pour moi. Et nous pouvons aussi nous incarner en tant qu'arbre, peut-être pour apprendre la patience, hein, ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais la dualité ne se limite pas seulement aux formes de vie humaines, ou même, voilà, déjà tout ce qui a un ADN fait une expérience d'incarnation, hein, assurément, puisque... Il y a une haute intelligence, hein, qui est codée dans l'ADN. Notre intelligence divine a pu mettre en place ce code génétique d'une complexité incroyable et qui assure les fonctions du végétal, de l'animal, de l'humain à des degrés d'existence différents. Voilà, et puis... Je vais laisser le contrôle de cet après-midi à l'esprit pur, au Saint-Esprit, comme le nomme le cours, la partie de notre esprit qui n'est pas divisée, qui n'est pas sensible au rêve de la séparation, à la pensée de séparation, et je vais laisser l'esprit diriger le cours de cet après-midi comme... bon lui semblera, en laissant volontairement ma personnalité de côté le plus possible, en citant ces cinq phrases que je cite souvent, qui témoignent de mon intention profonde de faire confiance, de ne pas savoir d'avance, de ne pas programmer des choses, mais plutôt de laisser faire les choses, hein, comme il adviendra que ces choses se font, se fassent. Ces phrases apparaissent à la page 30. Je les trouve d'une puissance phénoménale. Je pense qu'on pourrait en parler pendant un bon moment, hein, seulement de ces cinq phrases, si le cas se présente. Et elles disent ceci. « Je ne suis ici que pour aider véritablement. » Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Voilà, je ne suis ici que pour aider véritablement. Ça peut être ici, maintenant, au moment où je dis ces mots. Ça peut être aussi, je suis aussi dans ce monde d'illusions pour aider véritablement à ce que la pensée une puisse à nouveau élire domicile dans mon esprit, alors que je l'ai temporairement écarté, voilé dans mon esprit, divisé. J'aide véritablement, mais aussi je m'aide véritablement, moi-même, et tous mes frères et sœurs en même temps, puisque nous sommes un, en posant cette intention puissante d'aider véritablement, c'est-à-dire de parler au nom de ce qui est vrai, et pas au nom de ce qui est irréel ou illusoire. Et en juste trois phrases, dans l'introduction d'un courant miracle, ce qui est réel ou ce qui est illusoire est décrit d'une manière extrêmement pure et synthétique, avec des phrases qui à elles seules résument toute la portée et le sens d'un courant miracle. Et ces phrases disent: rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Ces phrases ont peut-être l'air anodines et en même temps, elles en disent beaucoup, hein, pour moi. Tout ce qui est réel ne peut pas être menacé, donc tout ce qui peut être menacé, c'est-à-dire qui un jour disparaîtra, l'univers, cette bougie, ce micro, mon corps, n'est pas réel. Hein, au sens de ce qui est vrai, au sens de l'amour, au sens de l'unité, au sens de Dieu. Donc je l'ai rêvé, je l'ai imaginé et... bien sûr, je le perçois. Il ne s'agit pas de dire ce n'est pas perçu. Hein. Au sens strict, on pourrait dire cela n'existe pas réellement, mais c'est perçu. Hein. Et je peux percevoir ce que je veux. Il suffit que je décide de percevoir quelque chose, en tant qu'esprit divin, c'est manifesté immédiatement. Et c'est l'origine de cette petite idée folle de séparation. Nous avons souhaité vivre dans un monde où il y a autre chose que l'amour. Il y a l'amour et il y a aussi un contraire à l'amour. Il y a aussi des qualités qui ont leurs opposés. La patience et l'impatience, l'accueil et le jugement, etc. Nous faisons ça pour évoluer, mais nous faisons ça aussi pour avoir une perspective sur l'amour. Comment embrasser l'amour plus efficacement que de se mettre en dehors de l'amour et d'avoir l'amour en face de soi, hein. Étant dans l'amour, je ne peux être que dans un état d'amour. Je ne peux pas observer l'amour. Je ne peux pas faire l'expérience de l'amour. Un état n'est pas une expérience. Un état est permanent. Une expérience change. Donc nous avons souhaité avoir une perspective, nous sommes sortis en apparence de l'océan d'amour pour voir ce que c'était qu'un poisson hors de l'eau, pour voir à quel point nous avions envie de revenir dans l'eau, pour voir à quel point l'élastique était tendu et nous propulsait et nous donnait envie de nous propulser de toutes nos forces dans l'océan d'amour. Bien sûr, impossible de sortir en réalité de l'océan d'amour, puisqu'il n'y a que l'océan d'amour et rien. Il n'y a pas d'espace où être en dehors. Il n'y a pas non plus de temps où un tel lieu existait. Donc tout ça n'est qu'imaginé. Et donc, je perçois des choses parce que j'ai autorisé mon esprit divisé à imaginer que ça pouvait être possible. Et mon esprit est divin, donc très puissant. Hein. Donc, quand j'imagine des expériences très profondes et puissantes, mes intentions sont suivies des faits. Dans ce monde, ça prend parfois du temps. Et c'est aussi prévu dans le scénario de cette dualité. Si ça ne prenait pas de temps, imaginez combien de temps aurait duré la dualité. Si je pouvais dire, je manifeste 1 milliard d'euros maintenant et ce 1 milliard d'euros arrive, il n'y a plus de dualité. Hein, parce que la dualité suppose qu'il faut que je trime ou que j'ai une chance sur 1 milliard au loto pour avoir ce 1 milliard d'euros. Cela ne veut pas dire que lorsque j'ai une pensée qui dit « je suis dans l'abondance », elle n'est pas vraie, puisqu'elle témoigne de qui je suis vraiment. Et qui je suis vraiment n'est pas limité dans l'amour et dans une abondance absolue, hein, et dans une création infinie. C'est l'amour qui se répète à lui-même. Et donc, quand je peux émettre l'intention puissante « je suis dans l'abondance », et si je maintiens cet état d'esprit, c'est un état d'esprit qui est vrai. Hein, et à un moment ou à un autre, il aura sa manifestation. Peut-être j'aurai oublié que j'ai eu cette intention quand la manifestation viendra. Ça fait partie du jeu. Mais c'est ce qu'on peut appeler aussi la loi d'attraction. C'est une loi de l'univers qui fonctionne. Il paraît-il que ça fonctionne, que mes intentions soient pures ou pas. Hein, et c'est pour ça que même avec un état de conscience pas forcément élevé, je peux faire fonctionner la loi d'attraction en y mettant suffisamment de volonté. Mais ça n'empêche pas de me retrouver face à mon ego, hein, avec ça. Hein, puisque l'ego est la manifestation du niveau vibratoire de l'amour que j'ai en moi. Donc je peux avoir un niveau vibratoire bas, et à ce moment-là je suis gouverné beaucoup plus par la peur. Je peux avoir un niveau vibratoire qui monte, et à ce moment-là je suis en partie gouverné par la peur, et à un autre moment, comme c'est la dualité, ben, je suis gouverné par l'amour, et ça alterne. Et je peux avoir un niveau de vibration très élevé, et je rencontre très rarement l'ego, où je commence à observer l'ego, et puis il n'a plus beaucoup d'effet sur moi, mais pourtant, je sens sa présence, hein, je peux rire plus facilement des drames de l'ego, rire de ce qui me semblait dramatique auparavant dans ma vie, alors que le niveau vibratoire était plus bas, puisque pour les travailleurs de lumière, ceux dont la mission sur Terre, c'est d'évoluer à grande vitesse. C'est le EGV, c'est l'évolution à grande vitesse. On a tous notre billet. Hein. Et tous ceux qui écoutent cet enregistrement sont des travailleurs de lumière. Tous ceux qui sont présents ici ou qui ont un jour ont été présents ou qui reçoivent les canalisations d'être éclairés en sont aussi, et ça fait pas de cela ou de nous des personnes de plus grande valeur. Hein. C'est simplement une question d'expérience. C'est simplement que c'est comme s'il y avait des grands frères et des petits frères. On dit aussi des jeunes âmes et des vieilles âmes, simplement pour dire l'âme a eu un nombre d'expériences importants, elle a appris. Et les jeunes âmes en sont au cours préparatoire et parfois doivent redoubler le cours préparatoire parce que les leçons demandent à être apprises et sues pour que on puisse passer au CM1 de l'âme. Donc la vie est une école et nous redoublons tant que les leçons ne sont pas sues. Peut-être le vérifiez-vous dans votre vie. La souffrance est une des leçons. Hein. la souffrance et la douleur, qui sont deux choses similaires mais pas identiques. Hein. Donc la douleur n'est pas nécessaire pour évoluer, la souffrance non plus, mais c'est un facteur d'évolution rapide. Lorsque vous avez un cancer, ce qui se passe dans votre esprit peut être bien plus puissant. L'humilité qui peut survenir alors que la vie tient à un fil peut tout d'un coup balayer l'ego, hein, balayer les croyances de l'ego. Puisque, après tout, je n'ai plus rien à perdre au niveau de mon corps et de mon existence humaine, alors je vais pardonner, par exemple. Hein. Alors je vais arrêter la colère, alors je vais arrêter la rancune. Voilà. Donc, le cancer peut avoir ça à jouer, hein, et puis il peut aussi, la leçon du cancer ou d'autres maladies peut aussi ne pas être apprise. Hein. Et à ce moment-là, j'ai rendez-vous à nouveau. Je reprends un corps et puis je recommence une galipette de plus dans le bac à sable. Voilà, donc nous apprenons, et à un moment donné dans notre vie, il y a quelque chose qui devient évident. C'est la notion du service, quand nous avons suffisamment appris, c'est-à-dire suffisamment reçu d'enseignement par nos expériences, puisque l'univers, donc Dieu, donc nous enseigne le retour à la maison, ou le Saint-Esprit, ou nos expériences de vie, ou notre partie élevée, ce qui tout ça revient à la même chose, nous enseigne toujours plus d'amour pour nous-mêmes, et lorsque l'amour pour nous-mêmes est suffisamment ancré, alors la corne d'abondance déborde et nous pouvons en offrir aux autres. Qu'est-ce que je peux offrir si ça ne déborde pas de moi? Qu'est-ce que je peux créer si je ne l'ai pas déjà en moi? Dieu crée son Fils par extension, par expansion. Hein, c'est parce que l'amour grandit que la filialité est créée. Et c'est la vraie création, c'est la seule création possible. Et donc moi, quand je me sens pur amour, et que j'ai suffisamment calmé mon ego pour que je puisse ressentir ça comme une urgente envie de le redistribuer, alors je me mets au service. Et alors ça devient prépondérant dans ma vie. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et en fait, je fais ça parce que je m'aide moi-même, hein, puisque donner et recevoir sont une seule et même action. Et comme nous sommes un, si j'aide mon frère qui est là à côté de moi, alors je m'aide moi-même à me rappeler que je suis ça. Et donc ce n'est pas directement altruiste, mais on pourrait dire que c'est de l'égoïsme divin qui dit « je m'occupe de moi parce que c'est comme ça que je vais bien m'occuper des autres ». C'est seulement en augmentant la perception de l'amour, en enlevant les barrières qui m'empêchent de percevoir que l'amour est en moi et autour de moi, c'est seulement comme ça que je vais pouvoir me mettre au service des autres. Et les barrières, bah, ça peut être la personnalité, ça peut être l'ego, ça peut être je veux, y compris je veux m'éveiller, hein, je veux l'illumination, ça peut être aussi une barrière à connaître au sens divin, connaître l'amour, hein, faire l'expérience de l'état d'amour, sans opposer, le bien sans opposer. Donc si toi qui entends ces mots, si toi qui es là, tu sens qu'il y a une part de toi qui a une envie irrépressible de se mettre au service, je ne suis ici que pour aider véritablement, alors l'appel de ton âme est celui-là. Hein. Le service que je donne à mon frère ou à ma sœur de lumière sur terre est un profond et puissant rappel à l'amour pour moi-même. Et lorsque mon frère ou ma sœur se réveille à l'amour grâce aux échos de l'amour que je lui envoie, alors lui et moi sommes un dans cet amour. C'est ça qui est beau. Parce que le service est à la fois intéressé et désintéressé. Je suis intéressé par mon seul but, hein, et ce n'est pas un intérêt de la personnalité, c'est un intérêt à rentrer à la maison, tout simplement, à retrouver la maison du Père dans laquelle je suis attendu à bras ouverts, chaleureusement. Voilà, puis je vais citer quelques phrases, concepts dont on peut qu'on peut élargir. Alors, ces phrases peuvent être élargies cet après-midi, hein, dans le temps que nous allons passer ensemble autour de cette table. Ces phrases, concepts peuvent aussi être élargies par ceux qui écoutent, hein, en se posant la question à eux-mêmes, hein, par exemple, il n'y a que l'amour ou la peur, qu'est-ce que ça invoque en moi, hein, cette phrase? Qu'est-ce que ça fait résonner en moi? Est-ce que je me révolte ou est-ce qu'il y a une part de moi qui dit oui, intuitivement, je sens que c'est vrai? Et ça peut être aussi approfondi, ben, par téléphone, hein, si vous le sentez, ou par email. Appelez-moi et puis nous pouvons ensemble continuer le groupe hors enregistrement, directement. Voilà, donc on peut évoquer l'origine et le sens d'un cours en miracle. Pourquoi ce gros pavé de 1300 pages est arrivé sur Terre et pourquoi il a une expansion énorme dans le monde dans ces dernières années. Comment il est possible de mieux percevoir notre véritable nature? Comment trouver la paix dans notre vie grâce au véritable pardon qu'enseigne le cours en miracle et bien d'autres enseignements? Comment je peux choisir d'être heureux plutôt que d'avoir raison dans cette vie humaine? Comment je peux identifier l'ego dans son jeu qui est la croyance d'être séparé de l'amour? Comment je peux identifier dans ma vie, précisément dans les événements de ma vie? Quel est le pouvoir divin de nos intentions? Comment ce que je vois du monde n'est qu'un reflet de mes pensées et rien d'autre? Comment je peux être dans le monde sans être du monde, c'est-à-dire adhérer aux valeurs qui sont prônées par le monde social? À quelle utilité a le scénario de nos vies, le rêve que nous vivons sur Terre? Le fait que la seule vraie guérison est une guérison dans l'esprit? De quoi est fait, le voile de séparation? Quelle est sa nature, celui qui nous empêche de percevoir la vérité? Qu'est-ce que le plan divin pour l'humanité? Comment je peux apprivoiser l'ego comme j'apprivoise un animal sauvage pour le remettre à mon service, au service de l'amour? Et comment le monde subtil, comment le monde invisible est toujours en permanence à nos côtés, présent, pour nous fournir de l'aide à chaque seconde? Voilà, et j'ai mis trois petits points parce que la liste est loin d'être limitative. Lorsque il y a un événement dans ma vie qui m'appelle à la réactivité, alors c'est un excellent point de départ pour revenir à la non-réactivité. Et la non-réactivité, c'est l'accueil absolu. C'est l'amour sans opposé. Alors je vais finir l'introduction et commencer un témoignage. À l'instant, juste avant ce groupe, je reçois un appel de télémarketing. Et le groupe était sur le point de commencer. Et il y a quelques années, j'étais révolté et je considérais que c'était des intrusions. Comment ils ont eu mon téléphone? Je veux pas être sur ces listes. Mais de quel droit vous m'appelez? Vous m'appelez? Je vous ai pas donné mon autorisation. Bon, alors, je pense que vous connaissez le registre des réactions que je viens de nommer. Et puis, je me rappelle que quand je réagissais comme ça, je fermais le téléphone avec des gros battements de cœur. Et je mettais un certain temps à retrouver un calme intérieur. Et je me suis rendu compte que, d'une certaine manière, je m'empoisonnais moi-même. C'est-à-dire que le téléphone avait beau être raccroché, l'événement avait beau être terminé en apparence, ben il se continuait en moi. Et je continuais à être en colère, parce que je me dis, il y en a de plus en plus, quand est-ce qu'ils vont me rappeler? Bon, donc je perpétuais ça, malgré le fait que c'était terminé, ben dans mon être, c'était pas terminé. Je pouvais pas pardonner le fait que ça se passe dans ma vie. Et à un moment donné, je me suis dit, Avi, arrête de t'empoisonner. Je me suis dit ça pour bien des choses dans ma vie, pas seulement ça, qui m'empoisonnait, comme la colère ou l'absence de pardon, ou perpétuer des choses qui sont finies depuis longtemps. Je dis, Avi, comment tu pourrais rester en paix, choisir d'être heureux plutôt que d'avoir raison. Parce qu'avoir raison dans ce cas-là, c'est... mon ego a cette idée complètement illusoire, mais complètement folle aussi, que la personne qui est au bout du fil va s'excuser, va dire « je suis désolé vraiment, je ne le referai plus, je vais vous rayer définitivement de nos listes, je vais faire en sorte que vous ne receviez plus d'appels, je suis vraiment, je m'excuse profondément, je suis à genoux devant vous. » Et ça, mon ego ne rêve que de ça. Que quelqu'un s'agenouille devant lui pour demander pardon et pour que je sois bien dans mon rôle de victime, surtout victime de cet appel téléphonique, et puis le bourreau va s'excuser. Oh, bien sûr, ça n'arrive jamais. C'est pour ça que je dis que c'est une idée folle et c'est un fantasme complet. Et c'est pour ça que la colère dure des années, parfois une vie entière. Parce que je ne sors pas, je ne peux pas sortir de l'état de victime en maintenant l'état de réactivité agité. Et donc je me suis dit, Avi, comment tu pourrais raccrocher le téléphone en étant calme? C'est pas évident, hein? C'était pas évident. Alors je me suis dit d'abord, Avi, remercie la personne. Et mon ego qui me dit tout de suite, ça va pas, non? Si, si, du calme, l'ego, couchez. Remercie la personne, parce que c'est aussi une personne qui veut gagner sa vie. Bien sûr, elle choisit un travail très difficile, mais elle a d'autant plus de mérite, parce que c'est un travail vraiment difficile d'appeler des gens, et puis 99 fois sur 100, je suppose que les gens raccrochent. Et quand ils ne raccrochent pas, voilà, c'est « je veux vous convaincre, je veux vous convaincre, je veux vous convaincre ». C'est donc c'est de nature à renforcer tout ce que le monde prétend, c'est acheter ci, acheter ça, etc. Donc c'est doublement difficile, c'est un métier où gagner sa vie, si la personne est rémunérée au pourcentage, alors vraiment, je la trouve courageuse. Et quand je peux me rappeler que c'est un frère ou une sœur qui fait une expérience, qui va lui apprendre quelque chose, déjà je peux me détendre un petit peu avec ma réactivité. Et je peux apprécier ce qui est vraiment là. C'est son courage de décrocher, elle, son téléphone et d'appeler des centaines de personnes. Et pour la plupart du temps, parfois de recevoir peut-être des insultes. Bon, moi je sais que c'est pas évident. Je suis pas sûr que j'aurais eu le courage, je ne l'ai pas fait dans ma vie, mais que j'aurais tenu longtemps à ce jeu-là. Parce qu'il faut avoir une sacrée stature pour rester solide en face du comportement des interlocuteurs. Alors je dis remercie pour son courage, et même si toi tu n'es aucunement intéressé à ce qu'elle va te proposer, souhaite-lui que ça se passe bien pour ses prochains appels. Et au moins avec ça, je suis avec ce frère, plutôt que contre ce frère. Et donc, j'incarne la partie en moi qui n'est pas en colère quand je suis avec plutôt que contre. Alors, moi, c'est un processus. J'ai toujours un petit peu de battement de cœur, beaucoup moins, mais j'en ai encore quand je raccroche. Je dis cette phrase et je raccroche. Peu importe si le frère qui est en train d'essayer de me vendre sa mutuelle ou je ne sais quoi, ou ses fenêtres isolantes, ou quoi que ce soit d'autre, continue son argumentaire, je raccroche. Hein. Et bon, c'est certainement un processus. J'essaie de lui souhaiter du fond de mon cœur du courage et une bonne continuation. Il y a quand même une part de dérangement hein, en moi. Et donc, je sais que j'ai à confier ça à l'esprit. J'ai à demander que cette situation soit réglée dans mon esprit, pas ailleurs, hein, seulement dans ma façon de voir l'événement, mais que je sais déjà qu'avec ces pensées-là, l'esprit est beaucoup plus avec moi dans comment j'interprète la situation. Et en vérité, tout est interprétation. Hein. Si j'étais d'une paix absolue, je répondrais avec un grand sourire, y compris à ce frère-là. Je lui dirais des choses pleines d'amour et je raccrocherais avec un grand sourire et j'aurais pas quitté ma paix une microseconde. Et je peux aussi, si j'interprète avec l'ego, je peux aussi entrer dans la plus noire des colères et raccrocher avec fureur. Donc, c'est la même personne qui peut faire l'un ou qui peut faire l'autre. Et la différence entre les deux, c'est l'interprétation dans mon esprit de la situation. Donc, j'ai tout pouvoir, et le mot pouvoir est important, j'ai tout pouvoir sur toute situation en fonction de, si je les interprète avec l'ego, je prends le micro, je dis « Toi, ego, qu'est-ce que tu as à dire ?» ou je prends le micro et je dis « Toi, esprit pur, esprit d'amour, qu'est-ce que tu as à dire ?» Et en fonction de à qui je tends le micro, alors il y aura une réponse, soit inspirée de l'amour, soit inspirée de la peur. C'est intéressant parce que si je fais une micro-pause d'une seconde, dans cette micro-pause, je peux choisir à qui tendre le micro. Et j'ai le choix. Hein. La plupart des dégâts qui sont faits par la réactivité, par ma réactivité, sont faits parce que je pense que j'ai pas le choix. Et si à un moment donné j'arrête de penser que j'ai pas le choix, je peux tout changer. C'est vraiment un enseignement majeur pour moi et que j'ai trouvé en changeant d'avis sur certaines personnes ou certaines situations ou sur certaines choses et en voyant qu'en changeant d'avis, et c'est quoi l'avis? C'est l'esprit, c'est l'interprétation, c'est ah bah finalement, et si je pouvais penser autrement, hein, et si. Ce ici-là, c'est le salut de mon agitation. Donc, que je me rappelle en permanence que j'ai le choix dans toute situation, et avant de me mettre en colère, je peux toujours choisir la paix. Et peut-être, je ne peux pas la choisir immédiatement, mais je peux en tout cas arrêter la réactivité au moment où je sens qu'elle va débouler, parce que ça arrive avec ses gros sabots, hein, comme un cheval au galop, et puis dire stop, quitte à dire à la personne qui est en face de moi, écoute, là je me sens dans la confusion, je préfère m'arrêter, me retirer, je rentre dans ma caverne hein, intérieurement, je vais dans ma grotte, je m'extrais de la situation qui est chaude, qui est brûlante, hein, qui est un brasier, qui est un volcan, et je vais dans une pièce tempérée, et là je me dis, qu'est-ce qu'aurait dit l'amour à ma place? Ça peut être une heure après, ça peut être un jour après, et il y en a qui le font 30 secondes avant de mourir. Peu importe, je peux changer d'esprit quand je veux, puisque le temps n'existe pas. Alors, plus je le fais, et plus le délai va se raccourcir, jusqu'au moment où ça pourra se faire, avec ce petite pause d'une seconde, et là, je vais choisir l'amour tout de suite. Et quand j'ai fait ça, j'ai rempli ma fonction sur Terre. Et j'ai cette magnifique leçon 192 devant les yeux. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Et la fonction, c'est d'aimer. D'aimer sans condition. De revenir à l'amour sans qu'il y ait autre chose que l'amour. Alors, sur Terre, je m'entraîne. Dans l'unité, je suis amour. Je n'ai pas besoin de m'entraîner. Je suis sans limite de temps, sans limite d'espace, sans même expérimenter l'amour, je le suis d'une manière permanente, inchangeable, invulnérable, éternelle. Mais sur Terre, je m'entraîne. Hein. Sur Terre, je pars de loin, et ma fonction sur Terre, c'est de revenir. Ce voyage est illusoire, mais nous avons vraiment l'impression qu'il y a un chemin à parcourir. Alors que nous sommes déjà en Dieu, hein, et que nous n'avons pas la nécessité d'y revenir. Mais dans l'illusion, oui. Hein, dans l'illusion, nous pensons qu'il y a du temps, et nous pensons que l'espace qui sépare diverses expériences, c'est du temps qui nous permet de redevenir heureux, ou libre, ou aimant. Bon, ça fait partie du jeu, bien sûr, ça a son rôle à jouer. Hein. Je vais m'arrêter là. Le fait d'être dans cette pièce, simplement en tant que faire une pause dans votre vie, dans notre vie, comme on l'a commencé avec cette minute, en communion avec Sylvain et les autres participants aux USA, c'est déjà une pause qui permet à ce qui est agité de décanter, hein, de se déposer au fond. Et quand ce qui est agité se décante, alors l'eau redevient claire, l'esprit redevient clair. Donc, j'arrête d'entretenir l'agitation, j'ai même pas besoin d'avoir la volonté d'arrêter de m'agiter, j'arrête simplement de remettre de l'huile sur le feu, hein, du brasero ou du volcan. Et naturellement, comme ma nature est amour, naturellement l'amour qui se traduit par la patience, la gentillesse, la disponibilité, le sens d'être au service, tout ça, ça revient. Je n'ai même pas besoin de l'apprendre, je le sais par cœur, je sais c'est qui je suis. Hein. Ça refait surface simplement quand j'arrête d'obscurcir l'eau dans laquelle je baigne. Donc peut-être aurez-vous besoin d'une minute, deux minutes, dix minutes, une demi-heure pour laisser remonter des idées vraies à la surface. Des idées qui parlent de notre nature profonde. Des idées d'amour, des pensées inspirées, des pensées que l'esprit pur vous souffle. Quand il y a assez de silence pour que cette phrase soit entendue. Et c'est ça la canalisation. Je laisse le silence s'installer et dans ce vide, je peux entendre le monde subtil chuchoter des choses. Les choses subtiles ne sont jamais criées, elles sont toujours chuchotées parce que il est besoin que je tende l'oreille, et c'est mon libre arbitre. Si je fais silence, si je tends l'oreille, ça veut dire je suis prêt à recevoir quelque chose. Et quand je suis prêt, alors, bien sûr, l'aide arrive, puisque j'ai manifesté ce désir que l'aide arrive. Voilà. Ce fut un réel plaisir de partager tout ceci avec vous, mes chers frères et sœurs. J'ai parlé.
Donc moi, j'aurais un témoignage qui, je pense, peut faire écho à celui d'autres personnes. Ces derniers mois, je vivais dans une sorte de nuage, c'est-à-dire que j'avais contacté l'être et j'avais réussi à déposer les souffrances, les fardeaux, les traumatismes de l'enfance. Je me sentais serein, tout allait bien. Et puis récemment, j'ai fait la rencontre d'une personne qui m'a fait replonger dans les affres que je pensais avoir déposées, c'est-à-dire à nouveau ressurgir dans ma vie quotidienne, revivre tous ces traumatismes de l'enfance. J'ai eu des mauvais parents, voilà, et j'ai toujours imaginé que ça, j'aurais cette croix toute ma vie. Et donc, ces derniers temps, je sens comme un conflit intérieur physiquement énorme. Et je me dis que cette souffrance qui réapparaît, tout ça, c'est parce que j'ai pas encore assez appris. Je sais très bien, parce que j'arrive dans la méditation, à redéposer ça et à retrouver les choses simples, c'est-à-dire me dire, mais oui, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Pourquoi refuses-tu l'amour? Pourquoi n'acceptes-tu pas l'amour? Tu as l'abondance, tout est possible, tu n'es pas limité, tu peux être heureux. Pourquoi souffres-tu tant que ça? Pourquoi vas-tu toujours ressasser, faire revivre dans l'instant présent tout ce qui t'a marqué autrefois? Voilà, je me dis ça, aujourd'hui je me le dis aussi, c'est-à-dire aujourd'hui, là, l'énergie du groupe me fait me rendre compte que les choses sont simples, en fait. Voilà, donc, et l'ego est toujours là pour s'aborder le bonheur. C'est incroyable. Donc, tant que j'ai pas appris, la souffrance est là pour me rappeler que de l'autre côté, il y a la paix. Et cette paix, je la connais, je sais où elle est. Donc, je bascule d'un état à l'autre. Voilà, en espérant qu'un jour, j'aurai vraiment fini de me saborder la vie. Ça peut être si simple.
Je suis allé ouvrir un cours en miracle à la page, à la leçon 192, page 380 des leçons. Et cette leçon, j'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Parle du pardon véritable. Hein, ma fonction, c'est de pardonner. Bon, bien sûr, pardonner, c'est aimer inconditionnellement, mais c'est aussi se rendre compte que ce que je croyais que l'autre m'a fait, en réalité, ne s'est pas produit. Parce qu'il y a deux niveaux de perception. Hein, il y a le niveau de perception de l'ego et le niveau de perception de l'unité. Dans l'unité, ça ne s'est pas produit. Je le rêve. Hein, je le rêve pour apprendre, en effet. Et donc, il y a un très beau chapitre, paragraphe, hein, dans cette leçon qui s'étale sur deux pages, qui parle du pardon. Le pardon regarde doucement toute chose inconnue au ciel, les voit disparaître et laisse le monde comme un tableau propre et sans marque, sur lequel la parole de Dieu peut maintenant remplacer les symboles insensés qui étaient écrits auparavant. Le pardon est le moyen par lequel la peur de la mort est vaincue, parce que maintenant, elle n'exerce plus sa féroce attraction et la culpabilité a disparu. Le pardon laisse le corps être perçu pour ce qu'il est, une aide simple à l'enseignement, à mettre de côté quand l'apprentissage est complet, mais qui ne change guère celui qui apprend. Voilà, ça me parle bien de cette réalité du pardon. Le pardon nous apprend à retrouver la réalité des choses, à retrouver une pensée vraie à propos d'une situation illusoire. Ce frère qui m'agresse, ses parents qui semblent avoir été des mauvais parents, en vérité, ne m'ont rien fait. Si je peux retrouver leur lumière dans mon regard, si je peux voir qu'ils ont joué ce rôle pour que j'apprenne quelque chose, alors, à ce moment-là, ça peut se faire avec l'aide, en demandant de l'aide à l'esprit, si c'est difficile de changer de regard, facilement, plus facilement. À ce moment-là, si je peux percevoir leur lumière dans cette nouvelle forme d'interprétation, alors je peux les prendre dans mes bras et rire avec eux de ce que la situation m'avait amené à vivre. Dès que je peux rire, dès que je peux voir leur lumière, le frère et moi sommes à nouveau un. Et ce pardon-là est fait, puisque j'ai retrouvé cette pensée une avec mon frère, y compris ce frère à qui j'impute de nombreux dommages, hein, pour ma structure physique, pour ma structure psychique. Donc pardonner, ça peut prendre la forme d'une forme de rituel. Moi, je le faisais sous forme de rituel. Je citais le prénom de cette personne et je disais « Toi, en citant son prénom, être divin, puissant, illimité, lumineux, intemporel, éternel, à jamais, dans l'amour à jamais. » J'ai oublié qui tu étais. À présent, je le retrouve à nouveau. Saint-Esprit, je t'offre tous les jugements erronés que j'ai eus sur cette personne. Et nous sommes tous les deux pardonnés. Hein, je termine par cette phrase symbolique, hein, puisque je me pardonne d'avoir eu des pensées fausses. J'ai des pensées qui sont erronées. Je ne me juge pas non plus moi-même d'avoir eu des pensées erronées. Ça veut dire aussi, je ne juge pas mon ego. La fonction de l'ego est de séparer. Donc, que je ne m'étonne pas que ça se passe, si je l'autorise à le faire. Donc, quand je vois que l'ego divise et sépare, la conscience qui voit l'ego agir, la conscience qui prend l'ego la main dans le sac, prête à dégainer un jugement, est aussi celle qui me sauve. Puisque je vois l'ego, donc je ne suis pas l'ego, puisque j'arrive à le voir. Donc, s'il y a bien une chose qui m'a aidé dans ma vie, c'est être en face de mon ego plutôt que dedans. Si je suis en face, je vois un petit enfant qui souffre. Parce que c'est pas un être plein d'amour qui peut sortir, dégainer ses jugements ou sa kalachnikov pour tirer une grosse rafale dans tout ce qui bouge là devant. Même en termes de pensée, hein, les pensées sont aussi des projectiles, hein, puisque nous les projetons sur l'autre. Si je vois l'ego et si je le vois pour ce qu'il est, une partie souffrante qui croit des choses fausses, mais qui est terrorisée, parce que il n'y a que depuis la peur et la terreur que je peux imaginer ces choses abominables. Si je vois ça, alors c'est la porte ouverte pour que je lui tende les bras ou que je lui tende la main à cet ego. Puisque l'ego, il n'a qu'une... il y a une seule chose qui peut l'aider, même s'il est irréel, hein, c'est de lui rappeler qu'il est dans l'amour, alors qu'il est persuadé qu'il est hors de l'amour. C'est pour ça qu'il est terrorisé. N'importe qui, à la place de l'ego, serait terrorisé, puisqu'il est dans un monde complètement dépourvu d'amour. N'essayez pas de persuader l'ego qu'il est dans l'amour, puisqu'il est la négation de l'amour. L'unité et le monde de l'illusion n'ont aucun point de recoupement. Aucun. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça ne peut pas être à cheval. Vous ne pouvez pas être entre les deux mondes. C'est soit une pensée d'amour ou soit une pensée de peur. Mais l'esprit pur que je suis, l'esprit d'amour que je suis, peut ouvrir les bras à l'ego. Ouvrir les bras à une pensée fausse. L'ego n'a aucune réalité. Mais la pensée peut avoir des effets sur ma perception. Donc je pardonne la pensée fausse en lui ouvrant les bras. Hein, je la réintègre dans mon être d'amour, parce que d'elle-même, elle ne peut pas réintégrer l'amour, puisque pour elle, il n'y a que le non-amour. Pour l'ego, il n'y a que le non-amour. Moi, je suis dans un esprit apparemment divisé, et donc il y a une partie de moi qui connaît l'amour, qui peut agir au nom de l'amour, il y a une partie de moi qui semble complètement séparé de l'amour et qui ne peut agir que en dehors de l'amour. Et donc, je suis celui qui peut rassembler, hein, c'est la division. Je suis le Saint-Esprit, je suis celui par lequel ce qui n'a pas pu être aimé peut l'être. Hein. Et c'est ça le pardon. C'est mettre une pensée d'amour à un endroit où une pensée de division et de terreur a pu trouver place dans mon esprit. Et donc c'est pour ça que je dis la guérison est de l'esprit. Hein. C'est aussi le cours hein, qui dit cette phrase. La seule vraie guérison est un changement d'esprit. Quand on dit il a changé d'esprit à propos de ça, ça veut dire qu'il a, en anglais c'est to change... I changed my mind, hein, j'ai changé mon esprit, mais ça veut dire j'ai changé d'avis. Donc c'est j'ai une relation intime avec mon ego, et la seule personne qui peut faire la paix avec mon propre ego, c'est moi-même. Je ne peux pas aller dire au médiateur de la République, dis donc tu ne pourrais pas voir ce qu'il a, mon ego, il ne va pas bien là. Tu ne pourrais pas le ramener dans l'amour là, parce que il déjante grave. Non, c'est pas possible. J'ai eu une pensée fausse, et à présent je corrige, je mets un coup de Tippex. Hein? Mais personne d'autre ne corrige ma faute d'orthographe que moi. Donc, c'est une erreur. Le terme faute n'est pas approprié d'ailleurs. Parce que dans faute, il y a toujours la notion de coupable. Hein, alors qu'il n'y a pas de culpabilité et nous sommes innocents comme Dieu est innocent, puisque rien ne s'est produit. Hein, en cela réside notre innocence. Rien ne s'est vraiment produit. C'est pour ça que Dieu ne peut pas nous juger. Parce que ça ne s'est pas produit. Et le vrai pardon, c'est de réaliser que ça ne s'est pas produit. Alors bien sûr, quand je le dis, ce ne sont que des mots. Les mots, cependant, ont une énergie. Hein. Vous pouvez entourer quelqu'un avec des mots d'amour. Vous pouvez aussi déverser des mots de haine. Et l'énergie va élever ou baisser les vibrations hein, en fonction de ce que l'autre va accepter de percevoir. Alors, je me repose un peu et je me rappelle que l'autre est pure lumière. Celui que j'incrimine, celui, ça peut être des dizaines, des milliers, ça peut être l'humanité entière, ça peut être la Terre entière, ça peut être l'univers entier, mais je peux remettre une pensée vraie lorsque j'en avais une fausse. C'est l'essence du pardon véritable. Ce n'est pas le pardon du monde qui dit « Agenouille-toi, tu as fauté, et demande-moi pardon, et moi je mets la main sur ta tête, et je dis « Allez, va !» T'es pardonné maintenant. Je suis magnanime. Hein. Donc, je suis supérieur, en fait, quand je dis ça. Et c'est le pardon de l'ego. Hein, le pardon du monde est de nature à renforcer la notion de victime et de coupable, plutôt que de l'effacer. Donc, je te vois comme dans ta pure lumière, que tu n'as jamais quittée, mais que j'ai oubliée. Mais je lègue ça au Saint-Esprit. Hein. Si moi, je n'y arrive pas, Saint-Esprit, aide-moi à voir cet être comme un être de pur amour et de pure lumière, comme mon frère, comme moi-même, en vérité. Et je me sauve avec cette pensée, et en même temps, je sauve mon frère. C'est pour ça que moi, je termine le rituel par « Et nous sommes tous les deux pardonnés ». Parce qu'il n'y a qu'un pardon à faire. Il n'y a qu'une pensée à pardonner. C'est la pensée d'origine de séparation. Et à ce moment-là, c'est moi, en pensée, je termine mon rituel aussi par on se prend dans les bras et on rit ensemble. Hein. Et je peux l'imaginer, et ça me fait vraiment sourire ou même rire quand j'imagine que je ris avec mon ennemi. Et c'est vraiment puissant hein, pour moi. Parfois, je vois que j'ai besoin de refaire. Hein. Et ben, je refais, hein, je refais. Mais je vois que j'ouvre la porte avec ce rituel à me dire, à vie, tu peux penser autrement. À propos de ça, ce n'est jamais figé. Hein, ce que tu as un jour dans ta vie, tu as pensé que cette personne était la plus horrible des personnes. 10 ans après, tu te dis, waouh, quel enseignement elle m'a donné. Et là, je remercie. Donc, mon jugement est toujours temporaire, heureusement. Heureusement. Et si cette personne m'a aidé à apprendre quelque chose qui ensuite ne se représentera plus dans ma vie, alors c'est moi qui l'ai placé en face de moi en tant qu'esprit divin pour lui dire, vas-y, joue ton rôle. Joue ton rôle de bourreau. Et comme ça, je vais apprendre. Mais si j'apprends pas, je dis, bon, ben je redouble, je recrée une autre situation, et je dis, c'est bon, on recommence. Acte 2, pardon véritable, acte 2, joue ton rôle maintenant. Ouais, tant que la leçon d'amour ne sera pas apprise, je recréerai dans ma vie, je refabriquerai en tant que scénariste de mes jours et de mes nuits, je refabriquerai une situation dans le seul but de pardonner véritablement, d'aimer et d'accroître ma capacité à aimer. Si je ne pardonne pas dans le monde, c'est parce que je n'ai pas une capacité à aimer suffisante, mais d'abord une capacité à m'aimer moi-même. Hein? Si je m'aime moi-même, mon amour s'étend sur tout mon entourage. Naturellement, je n'ai rien besoin de faire. Et donc je ne peux plus juger quelqu'un si je m'aime suffisamment. Parce que si je m'aime, c'est que j'ai vu toutes les souffrances, toutes mes souffrances, et je suis passé par-dessus. Et j'ai vu que mes propres jugements sur moi-même venaient de mes propres souffrances, et je suis passé par-dessus, par mes enseignements de vie. Et si j'ai vu mes propres souffrances, c'est la porte pour voir la souffrance de l'autre quand cette personne me fait apparemment du mal, ou m'a fait du mal, ou me juge. Je ne vois plus l'effet, mais je vois la cause. Et la cause, c'est la souffrance. C'est la souffrance, c'est la croyance d'être séparé d'amour. Je ne peux pas souffrir si je suis persuadé d'être dans Dieu, d'être dans l'amour. Mais quand je vois la souffrance, je me dis, rappelle-toi à vie, toi aussi, tu jugeais. Rappelle-toi, tu jugeais parce que tu souffrais. Et donc cette personne qui est devant toi, elle juge parce qu'elle souffre. Regarde la souffrance et ne regarde pas le jugement. C'est ça. Et là, tu peux prendre dans les bras. Parce qu'il y a de l'empathie quand tu dis « regarde la souffrance ». Ce n'est plus « t'aurais pas dû faire ça », c'est « viens dans mes bras parce que je te comprends hein ». Je sais d'où tu viens parce que j'en viens aussi. On a fait le même chemin, mais à des périodes différentes. Donc l'endroit où j'arrête de juger, je fournis une perche extraordinaire à ce frère qui me juge pour que lui aussi arrête de juger. Parce que dans sa souffrance, il est compris plutôt que rejeter. Et là, c'est extraordinaire, ce qui peut se passer. Quand je pardonne, je me connecte à ce qui est vrai, et si je me connecte à ce qui est vrai avec un frère, alors nous sommes deux à être connectés. Il n'y a pas un effet seulement sur moi. Le pardon, il s'étend. Il s'étend à toute la situation. Donc on peut pardonner des hommes politiques, on peut pardonner des partis politiques, c'est au niveau de l'inconscient collectif hein, que ça se passe. Il n'y a pas besoin d'une personne en particulier, on peut pardonner une pensée dans le monde. Et puis il me vient de, si c'est utile, hein, de rappeler un très très beau résumé d'un cours en miracle qui a été... donné par Kenneth Wapnick, Ken Wapnick et sa femme Gloria, et c'est dans un très beau livre qui s'appelle, très très court, très petit, qui s'appelle « Questions et réponses sur un cours en miracle », parce qu'évidemment, au cours des 40 dernières années, il y a eu beaucoup de questions posées sur l'application dans la vie quotidienne d'un cours en miracle, c'est pas évident pour chacun. Et ce livre répond à beaucoup de questions de manière simple, hein, par exemple le suicide, des choses comme ça. Et donc, le résumé de Ken Wapnick est magnifique, hein, parce qu'il, chaque mois son importance, il donne en un paragraphe court la totalité de l'enseignement. Hein. Je vais vous le lire. Un cours en miracle nous propose une nouvelle façon d'être dans ce monde de rêve qui va bien au-delà de toutes les morales et règles de conduite auquel le monde rend hommage. Cette nouvelle façon d'être nous demande de devenir conscient des pensées de notre esprit faux, puis de demander de l'aide pour passer à la correction qui se trouve déjà dans notre esprit juste. Afin d'accomplir cela, nous devons mettre notre ego de côté et lâcher prise de tout désir, valeur morale ou investissement en un quelconque résultat qui touche la conduite, les règles ou les attentes. Voilà, il est dit beaucoup de choses, hein, ça peut être lu et relu et relu, ça parle essentiellement de pardon, hein, et mettre l'ego de côté. Il n'y a que en mettant l'ego de côté que je peux l'avoir en face de moi. Hein. Ça rejoint ce que je disais. Si j'ai la sensation d'incarner l'ego parce que je suis dans le corps, si j'ai la sensation de penser avec l'ego comme une seule entité, Alors assurément, je peux me considérer comme la victime de l'ego. Je peux considérer que j'ai pas le choix, que l'ego, c'est une sorte de diable qui s'empare de moi, qui prend possession, je suis possédé par l'ego, et je dis des choses affreuses, mais j'ai pas le choix. Et cette courte introduction vise à nous rappeler notre responsabilité dans le choix. En mettant l'ego de côté, ça prend parfois du temps, et en demandant de l'aide pour avoir des pensées justes. Et les pensées justes, comme elles sont déjà en nous, le simple fait de demander de l'aide nous fait prendre conscience des pensées justes. Donc c'est le but des 365 leçons du cours, arriver à une perception de véritable, arriver à une perception juste, en entraînant l'esprit. Ça ne se fait pas dans notre monde en claquant des doigts, parce que il y a tellement de peurs profondes associées à cette pensée de séparation que nier l'ego d'un seul coup, c'est très effrayant, ou ça fait terrorisant pour qui s'identifie à l'ego. Qui s'identifie à l'ego s'identifie au corps. Et donc si je lui dis ton corps n'existe pas, waouh, il n'y a plus rien, c'est la catastrophe. Et ça peut être un effondrement du psychisme également. Donc c'est important de le faire avec progressivité. Et le cours nous propose, au travers des 365 leçons, une prise en main, un accompagnement progressif pour lâcher de plus en plus de croyances. Mais ce n'est pas, une seule leçon avec un apprentissage radical. Bien que la vérité soit radicale, hein, elle est radicale. Mais dans notre réalité, nous avons besoin de progressivité. Parce que l'esprit est tellement conditionné que lâcher tous les conditionnements d'un coup, ça peut provoquer un effondrement de l'esprit, hein, un effondrement de la structure de l'ego, hein, psychique. Et ça ne nous est pas profitable, hein, pour nous rappeler à la vérité. J'ai parlé.
Et quand tu dis que l'ego peut... Enfin, que ça pourrait créer une... Enfin, je sais plus tes mots, mais... un effondrement, voilà. L'ego, moi, je sens qu'en fait, le chemin qui m'est demandé fait que, du coup, l'ego a du mal à supporter et rechigne à la hauteur de ce que l'autre chose en moi me demande. Et du coup, c'est vrai que j'ai vraiment besoin de venir ici, par exemple, ou à d'autres endroits, ou de lire des choses, mais pour me remettre au carré, parce que en fait, parce que effectivement, comme tu dis, l'ego a tellement besoin de conditionnement, le mien. Il a tellement besoin de conditionnement, il a tellement besoin d'être accepté par la société, il a tellement besoin de plaire à tout le monde, il a tellement besoin de faire plein de choses comme ça, qui n'est manifestement pas forcément ce qui m'est amené à faire. Je vais parler comme d'une mission d'âme, hein, que je sens très très fort en moi, et du coup entre ce qui tire d'un côté et qui est aussi fulgurant et qui est malgré moi et il y a l'ego qui en fait je me fais vraiment complètement avoir, quoi. C'est une catastrophe, quoi. Alors, régulièrement il me happe et je me remets dans sa logique à lui, qui est quand même la logique un peu de la majorité de la logique la plus facile, en tout cas celle qui est la plus véhiculée dans la société, etc., etc. Enfin bon, bref, c'est vrai que tout ce qu'on dit ici n'est pas forcément véhiculé par tout le monde ou par voilà. Donc, et je me rends compte que par souci d'appartenance, il y a vraiment quelque chose en moi qui refuse en fait cette logique-là, qui je sais que, enfin, c'est la bonne logique, et il suffit que je m'y remette, enfin, comme tu disais tout à l'heure, pour que je me dise, mais oui, c'est ça. Mais alors, je rebascule, mais d'une rapidité, et une fois que j'ai rebasculé, c'est difficile pour l'instant. En tout cas, j'ai vraiment du mal à rebasculer toute seule, en fait. Hein. C'est difficile. Bon, il y a des moments où c'est plus facile, hein, parce que je vais tomber sur un texte qui me parle pas particulièrement, parce que je vais ouvrir un bouquin et le message va être. Enfin voilà. Mais c'est vrai que. Ouais, que je me fais avoir et que du coup, ça fait aussi des choses qui sont dans la souffrance. Alors je pense, me les épargner. C'est là que je m'en rends compte aujourd'hui. C'est que je suis en train de me dire, mais je pourrais de plus en plus m'épargner de la souffrance si j'étais vigilante, en fait, parce que je pense qu'il y a une forme de vigilance, à rester dans ma logique, enfin, ma logique là, de l'unité, parce que c'est celle où tout le monde est appelé, mais j'ai envie de dire, moi, enfin, et peut-être d'autres aussi sentent ça, je sens que j'ai pas le choix. Enfin là pour le coup il y a toujours un choix, mais je veux dire je pourrais m'épargner de la souffrance mais pour l'instant je j'ai du mal et je vais juste témoigner de quelque chose. La semaine dernière je suis sortie de là, de cette réunion, donc j'étais je me sentais remise à l'endroit où je sens que c'est juste pour moi et que c'est le bon endroit. Et je devais aller à une soirée, bon, un dîner, voilà, entre amis. Et j'ai basculé, mais en deux temps trois mouvements, dans quelque chose qui n'était pas du tout de l'ordre de la colère, mais qui était du l'ordre complètement de la tristesse. Mais un espèce d'effondrement, hein, vraiment d'un effondrement. Parce qu'en fait... je m'étais leurrée et que la vie me demande de pas me leurrer. Enfin, que je sens que dans le chemin que j'ai quelque part, en fait, je dois être alignée et si je me leurre, et ben je souffre. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé dans ce dîner. J'ai passé la soirée à pleurer, ce qui n'était pas tout à fait le but du jeu. Voilà. Mais Et tout ça parce que j'étais pas alignée avec qui je suis, tout ça. Enfin voilà, j'étais pas alignée avec qui je suis. Et j'ai pioché la leçon 39, ma sainteté et mon salut. Voilà. Et pour moi, ça répond exactement à ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est-à-dire que si je me remets dans la culpabilité, la mauvaise estime de moi, Oui, parce que alors ce qui se passe aussi, c'est que ce qui se passe aussi à l'intérieur, c'est que l'ego s'empare du chemin de vie que j'ai c'est assez spécial, mais pour me retaper dessus, quoi. Enfin, pour me resaboter en me disant, mais ça va pas, mais t'es pas normal, mais qu'est-ce que tu fous, mais tu devrais être comme tout le monde, pourquoi tu fais ça alors que tu devrais faire ça, et tu devrais te marier, avoir des enfants, et penser qu'à ça, et te remettre dans le droit chemin, qui est un chemin social, culturel, et voilà, et pas ce que ma vie m'appelle à faire. Je sais pas d'ailleurs ce qu'elle m'appelle à faire, mais voilà, en tout cas, qui est un chemin spirituel et qui sera peut-être ça, ce qui sera peut-être autre chose, j'en sais rien. Et c'est au jour le jour que je le découvre, et c'est instant présent après instant présent. Et voilà, je parle parce que si je suis intéressée pour, enfin, moi je sens que mon ego s'accapare, en fait, de ce chemin-là, en le refusant et en me resabotant. Et ce qui pourrait être ma sainteté, il en fait un truc pourri, quoi. Mais alors vraiment, hein, c'est ce qui peut être de la lumière ou qui peut être un chemin d'éveil, ça oula. Là, ça part dans un truc de alors des fois on parle de l'ego spirituel et là c'est l'ego qui s'empare pour en faire de la bouillabaisse, quoi, enfin Et ça, c'est nul, quoi. Et quand je me vois faire ça, je me dis, mais Estelle, arrête, quoi, arrête. Mais je sais pas. L'ego est là, effectivement, avec ses trucs, et il a un peu de mal, apparemment. Voilà, merci.
Merci Estelle. Alors l'ego est l'apanage de l'ensemble de l'humanité et de l'ensemble du monde de la séparation qui va bien au-delà de l'humanité. Donc c'est ok hein, d'avoir un ego que je n'attende pas de mon ego qui me dirige vers la lumière, il ne sait pas le faire. Donc déjà j'arrête de compter sur lui. Et puis il y a une phrase qui a l'air de rien, qui m'a été d'une aide considérable lorsque j'étais dans mon chemin d'évolution en psychothérapie. Ma thérapeute m'a dit cette phrase: Avi, ne change rien de ce que tu fais, simplement remarque que tu le fais. Quand tu demandes de la reconnaissance, remarque que tu demandes de la reconnaissance. Ne le change pas, continue tout comme d'habitude. Mais à ce moment-là, et c'est le mot que tu as employé, Estelle, sois vigilant. De la vigilance. La vigilance est la conscience est lumière, et c'est l'antidote de l'obscurité. C'est l'antidote de la peur et des énergies qu'on appelle sombres. Donc, ah oui, oui, mais je vois, là j'agis en fonction des règles du monde. Là je souris parce qu'on me demande de sourire. Là je souris pour être aimé. Ah bah oui, je le vois, ouais, mais je continue à le faire. L'expérience que moi j'ai eue, c'est que je pouvais pas continuer à le faire longtemps consciemment. Donc ma thérapeute ne m'a pas dit d'arrêter de le faire, mais... si je me suis suffisamment exercé, la conscience entoure l'obscurité, entoure l'inconscience. Parce que c'est une inconscience que de demander de l'amour à quelqu'un ou de la reconnaissance. C'est l'endroit où je ne me reconnais pas moi-même suffisamment. Donc je vais tenter illusoirement de l'obtenir d'ailleurs. Et donc c'est inconscient, c'est-à-dire que je peux faire des galipettes et des sauts et des pirouettes et des sauts de 10 mètres de haut, je n'obtiendrai pas de l'amour ou de la reconnaissance de quelqu'un. C'est illusoire. Hein. L'autre ne peut me faire croire qu'il me reconnaît pour qui je suis. Que ne me faire croire qu'il me donne de l'amour. Mais en vérité, c'est je me reconnais et je me donne de l'amour à tout moment. Il n'y a que moi. La source est en moi. Donc, quand je la mets à l'extérieur, déjà, je peux être victime du monde, victime aussi de l'ego. Alors, l'introduction du cours en miracle est très parlante à ce sujet. Elle me venait tout de suite à l'esprit quand tu parlais, Estelle. On la cite très souvent, mais en même temps, elle est... très pertinente, je trouve, là, tout de suite. Le cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour, car cela est au-delà de ce qui peut s'enseigner. Toutefois, il vise à enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour, qui est ton héritage naturel. L'opposé de l'amour est la peur, mais ce qui embrasse tout ne peut avoir d'opposé. Ce cours peut donc se résumer très simplement de cette façon. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Alors, pour moi, c'est la conscience des blocages. Hein. Prendre conscience des blocages ou prendre conscience des conditionnements... naturellement, ça les amène à avoir moins d'emprise et au final à ne plus avoir d'emprise du tout sur moi. Parce que une conscience qui accompagne un acte inconscient C'est le plus et le moins. Ça s'annule. Hein. Je ne peux pas rester dans l'inconscience si j'accompagne mon inconscience de vigilance, c'est-à-dire de conscience. Donc, c'est une manière de ne pas lutter contre l'inconscience. Quand je lutte contre l'inconscience, je renforce l'inconscience. Parce que la lutte est inconscience, puisqu'il n'y a pas contre qui lutter dans l'unité. Donc forcément, ça renforce la séparation. Si je m'oppose à qui que ce soit, j'ai perdu le message de l'unité. Et donc je ne m'oppose même pas à mon ego, qui n'est certainement pas une personne, même si nous en parlons parfois comme d'une personne ou d'une entité. Mais je vois de quelle manière il rentre dans les rouages, il met le grain de sable pour faire bloquer le mécanisme qui me permettrait d'aimer. Hein. Donc c'est ça, la conscience. Hein, il vise à enlever les blocages qui empêchent la conscience de la présence de l'amour. Donc l'ego essaye de bloquer la conscience de la présence de l'amour, et moi, depuis un point de vue qui est élevé, qui est conscient, la vigilance, c'est forcément élevé. Tu ne peux pas avoir une vigilance dans la terreur, hein, mais tu peux avoir une vigilance de la terreur. Tu peux avoir un point de vue élevé de ce qui se passe, hein, ou de la complaisance, ou un point de vue élevé de « je me mets à genoux pour être aimé, hein, je quémande, je fais la charité, hein, je demande la charité pour être aimé ». Je peux avoir un point de vue élevé de ça. C'est-à-dire que je me vois en tant qu'être divisé, avoir une partie de moi qui joue des rôles dans une croyance que l'amour, ça s'obtient de l'autre. Hein, que l'amour est hors de moi, donc il s'obtient de l'extérieur. Donc je me regarde, une partie de moi non divisée regarde une partie de moi divisée, et ça veut dire que je regarde l'ego, c'est tout. Quand je me surprends en train de demander de la reconnaissance, alors à ce moment-là, je suis dans l'amour. À ce moment-là, je suis dans l'amour pour moi-même. Donc, c'est pour ça que cette phrase est m'a été d'une aide extraordinaire, parce qu'elle m'a appris à mettre de l'amour tout le temps, dans les moments où je croyais que l'amour était impossible, que l'amour était bloqué. Or, l'amour n'est jamais bloqué. Il y a seulement la croyance que l'amour est bloqué. Et c'est puissant, hein, parce que... Mais j'ai besoin d'être vigilant à ne pas laisser passer une pensée fausse, à ne pas laisser passer un acte de « je veux quand même » sans en prendre conscience, et à le reconnaître. Et à le reconnaître. Quand je le reconnais, je suis sauvé. Hein. Oui, je suis en train de demander de l'amour à l'extérieur. Oui, je le vois et je ne le juge pas. Ça se passe. Cela est maintenant, cela est ma réalité. Oui, je vois que je fais des efforts pour que cette situation puisse être à mon avantage. Hein. Je le vois aussi. Chaque fois qu'il y a manigance, hein, chaque fois qu'il y a manipulation dans mon esprit divisé, je le reconnais. Ah oui, là j'essaye de trafiquer avec la réalité. Ouais. La réalité, je la vois, elle est simple, mais moi... J'essaye de trafiquer avec, c'est-à-dire de faire des choses compliquées pour obtenir des choses qui ne le sont pas. Voilà. Nous avons une veilleuse dans notre esprit, et comme son nom l'indique, elle veille en permanence. Et si je lui donne mon attention, elle est là et elle m'aide. Et si je délaisse mon attention, j'oublie qu'elle est allumée. Et cette veilleuse, c'est... Je constate, à vie, je constate ce que tu fais tout le temps. Je le constate quand tu fais des actes d'amour, je le constate quand tu fais des actes issus de la peur. Tout le temps. Donc, j'ai l'intention de laisser ma veilleuse allumée et de la laisser observer les choses. Quand je donne cette intention, je donne du courant à la veilleuse. Hein. Je donne ma puissance, de l'énergie presque électrique à ma veilleuse. Parce qu'une intention porte une énergie extraordinaire. Donc, je vais être vigilant, hein, ou je suis vigilant, ce qui est encore plus puissant, dans ma vie, à repérer quels actes je pose qui sont issus de la peur. À les repérer, à les voir, à les reconnaître, pour ensuite les laisser se dissoudre. Hein. Mais je m'entraîne à ne pas en laisser passer un. Peu importe si les conséquences sont les mêmes. Hein. Si j'ai posé la conscience à ce moment-là, j'ai enlevé un grain de sable. J'ai enlevé un grain de sable dans le rouage qui empêche l'amour d'être reçu et d'être donné. Parce que c'est l'inconscience. Hein. J'ai mis de la conscience, c'est l'inconscience qui empêche d'aimer vraiment. Hein. Et l'inconscience, je crois que l'amour n'existe pas. Hein. Que l'amour, ça s'achète, ça se marchande, ou que c'est pas mon héritage naturel. Hein. Hein, là, il dit, l'amour, qui est ton héritage naturel? J'ai rien à faire pour aimer. Hein. Pour aimer, j'ai juste à arrêter de bloquer l'amour. Moi, j'avais cette conscience il y a très très longtemps, il y a au moins 20-25 ans, avant tout début de chemin spirituel, que je suis dans l'amour comme je pourrais être dans l'eau. Que c'est tout autour de moi, et si je le ressens pas, c'est parce que je ne le laisse pas entrer, que je ferme les écoutilles. Et ça m'a étonné hein, à quel point cette conscience était présente comme une intuition énorme. Mais j'avais aucune explication, et j'avais même pas le... J'étais encore dans la demande de reconnaissance et les fonctionnements de l'ego, mais j'avais quand même cette guidance intuitive que l'amour est partout. J'ai pas besoin de le chercher, il est là, il est autour de moi. J'ai juste à ouvrir la porte. La porte est fermée, donc bien sûr, je ne le ressens pas. Donc j'ouvre la porte, j'ouvre ma conscience, et il y a des flots, hein, il y a des flots d'amour qui entrent quand je l'autorise. Et bien sûr, le premier réceptacle, c'est de moi à moi. Hein, c'est moi qui reçois en premier ce que j'autorise à entrer. J'ai parlé.
Bonjour à tous. J'ai eu tellement de choses à exprimer, à partager que là, je vais commencer par la leçon que j'ai tirée aujourd'hui, qui est la 279. La liberté de la création promet la mienne. Et en vous lisant le texte, la liberté de la création promet la mienne. La fin des rêves m'est promise. Parce que le Fils de Dieu n'est pas abandonné par son amour. Ce n'est que dans les rêves qu'il y a un temps où il paraît être en prison et attendre une liberté future s'il en est une. Or, en réalité, ces rêves ont disparu et la vérité est établie à leur place. Et maintenant, la liberté est déjà sienne. Devrais-je attendre ma délivrance dans des chaînes qui ont été rompues quand Dieu m'offre la liberté maintenant? Je vais être honnête, c'est vrai que ce texte, je l'ai relu plusieurs fois depuis le début de notre rencontre. Et là, en le lisant, j'ai pas complètement tout compris. Voilà. Mais je retiens quand même, en fait, des mots clés, comme donc liberté, création, le rêve. La délivrance, Donc, sur l'ensemble, nous serions dans une réalité, en fait, c'est comme si on était en train de rêver, quoi, dans cette vie-là. Et l'exercice qui nous est donné, c'est d'aller voir, en fait, d'aller réveiller cette conscience ou d'être en conscience, de cheminer sur la conscience pour se sortir, en fait, de ce rêve et des souffrances et de tout plein de choses qui sont pas réelles au final. Et je reviens donc sur la question de l'ego. Et cet ego, en fait, tout au long de notre débat, à un moment, il m'est venu une pensée comme ça. Je me suis dit sur le coup, mais on va pas faire à l'ego, on va pas faire revivre à l'ego comme la passion du Christ. On va pas crucifier l'ego parce que cet ego, bon. Pourquoi il serait si mauvais, si méchant, si voilà quoi, notre créateur nous a donné cet ego, c'est pas pour l'écrabouiller, l'anéantir et puis le faire disparaître. Il a quand même un rôle à jouer. Et quand t'as vu tout à l'heure, tu avais dit aussi, ça me restait en mémoire, enfin parmi tant de choses, mais ça me restait en mémoire parce que c'est en lien avec ce que j'aimerais partager en fait. C'était l'ego. L'égoïsme divin. L'égoïsme divin, c'est croustillant, ça me plaît bien, ça me parle. Enfin bon, ça, voilà. Et en même temps, tout au long, là, j'avais mon ordinateur qui fonctionnait comme ça, et du coup, je me disais, on parle d'esprit divin. Pourquoi il n'y aurait pas la question de l'ego divin et l'esprit d'atteindre cet état d'esprit divin, de le traduire dans cette réalité là, d'être voilà quoi, en amour, d'être en résonance d'amour, en vibration d'amour, pour atteindre ce stade là ou cette évolution là, est-ce que peut-être l'ego ne devrait pas en fait devenir notre ami? Est-ce que peut-être en soi, entre cet esprit et cette personnalité, je dirais bon, la personnalité spirituelle et la personnalité égotique, est-ce que ensemble ils n'ont pas en fait à s'apprivoiser, à s'aider, à s'aimer, et à voilà quoi, d'être amis, pour être dans quelque chose d'harmonieux déjà en soi. Voilà. J'ai parlé.
Merci, Soraya. Alors, dans le monde de l'unité, ce qui décrit le mieux ce monde, c'est juste deux mots qu'on cite très souvent, Dieu est. Et derrière est, il y a un point. C'est une phrase courte. Et ça résume l'unité de toute chose. Donc, dans notre vie terrestre, nous ne vivons pas l'unité mais la séparation, et notre esprit est séparé aussi. Notre esprit est divisé entre esprit juste, qui est, comme tu dis, l'esprit spirituel, ou ce qui peut nous amener à percevoir notre mission d'âme, comme dit Estelle aussi. Donc ça, c'est un attrait irrésistible vers la lumière, hein, qui est au-delà de nous, qui, lorsque nous n'y répondons pas, bah, ça attire, ça appelle. Moi, je l'ai vécu très fort, hein, aussi. Et il y a l'ego qui est le fondement de l'expérience de la dualité, puisque dans l'unité, il n'y a que le bien sans opposé. Il n'y a que l'amour, il n'y a que Dieu. Donc, Dieu n'a pas de pensée de division. Hein. Nous sommes la création de Dieu, le Fils de Dieu, comme le cours l'appelle, la filialité. Et nous sommes l'extension de Dieu, et en tant qu'extension, Dieu nous laisse la liberté de créer à notre tour ce que nous voulons, de faire des expériences. Nous pouvons faire ce que nous voulons, il y a une seule chose qui est impossible par nature, c'est de décréer ce que Dieu a créé. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous décréer, ce qui est en soi une excellente nouvelle. Hein. Donc il n'y a pas de bouton autodestruction hein, dans notre création. Donc on peut rêver de toutes les bombes nucléaires qu'on veut. Notre être véritable est éternel, indestructible, invulnérable, infini, illimité, omniscient, omnipotent. Et j'en passe. Hein. Il a toutes les caractéristiques de Dieu, c'est-à-dire que comme Dieu crée, à nous, à notre tour, nous pouvons créer aussi des choses. Et nous pouvons aussi avoir la liberté d'imaginer ce que nous ne pouvons pas créer, parce que nous ne pouvons pas créer ce qui est incompatible avec la pensée de Dieu, qui est pur amour. Nous ne pouvons pas créer le non-amour, en d'autres termes. Ça doit être compatible avec la pensée de Dieu, ce que nous créons. C'est pour ça qu'on ne peut pas se décréer, parce que nous sommes la manifestation de l'amour. Hein? Et se décréer, ce serait une pensée non cohérente avec la pensée de Dieu. Donc Dieu ne peut pas penser autrement que dans l'amour. Mais nous avons cette faculté d'imaginer, hein, ce qui n'est pas créable, nous pouvons le fabriquer. Fabriquer, comme on dit, qu'il y a des fabrications intellectuelles ou psychiques. Hein. Ça n'est pas réel, ça ne se passe pas dans le monde de l'unité, ça se passe dans notre monde imaginé, comme si nous étions un peu endormis. Alors, pourquoi la dualité? C'est une question qui revient souvent. Hein. J'en ai un peu parlé au début de l'introduction. On nous dit que c'est une façon d'évoluer qui est une des plus rapides existantes hein, dans le monde de la séparation. D'évoluer vers quoi? Vers l'unité. De revenir à la maison, là où cesse toute évolution, justement. Forcément, dans le monde de la séparation, dans l'esprit divisé, nous avons dû fabriquer quelque chose qui serait l'opposé de l'amour, forcément. Parce que on ne peut pas vivre une expérience de dualité sans opposé. Et donc, nous avons imaginé un monde d'opposé en imaginant nous extraire de Dieu, en nous imaginant nous extraire de l'amour. Donc la prémisse, c'est Dieu et tout ce qui est. Donc ce qui est hors de Dieu n'est pas réel. C'est ce qui est dit dans les trois petites phrases. Rien de réel ne peut être menacé, c'est-à-dire que l'amour ne peut jamais être détruit, hein, ne peut jamais être menacé, n'est pas changeable, n'est pas modifiable. La qualité d'amour est constante tout le temps et éternellement. Et rien d'irréel n'existe, c'est-à-dire que tout ce que je veux imaginer d'irréel, je l'imagine, mais il n'existe pas pour autant. Il n'est pas vrai pour autant. Donc, l'ego a une utilité, hein, nous aider à avoir une perspective. C'est quoi la perspective? C'est sortir et regarder depuis l'extérieur. Ça ne se peut pas depuis l'unité. C'est impossible. L'unité est un monde où tout est cohérent et tout est un. Donc, on ne peut pas en sortir puisque tout est à l'intérieur, tout se passe dedans. Et ce tout n'est pas divisible. Hein, on ne peut pas dire j'en prends une partie. Hein, c'est un tout. Alors, on rêve qu'on est dehors de la grande sphère hein, de l'unité. On rêve de ça. Et dans ce rêve, comme on a un esprit divin, eh ben, on perçoit des choses qui se manifestent apparemment réelles. Hein. C'est notre réalité. C'est pour ça que ça a l'air tangible, les choses ont l'air solides, les choses ont l'air de se passer, les gens ont l'air de naître, ont l'air de mourir. Tout ça, ça n'est pas nié, hein. Ça se passe dans notre réalité. Et là, nous mettons la différence entre la réalité, celle qui est inchangeable, celle de Dieu, et notre réalité, celle que nous percevons, parce que la perception dépend de celui qui perçoit. Et je peux changer mes perceptions si j'ai le désir de revenir à une perception juste. Et c'est là que l'ego intervient, hein. L'ego intervient en tant que manifestation du désir de percevoir autre chose que ce qui est. Ce qui est de toute éternité. C'est vrai que c'est pas facile à admettre, parce que notre expérience suppose un voile d'ignorance, un voile d'ignorance de notre réalité, et donc ce qui pour nous est notre quotidien, notre réel, nous semble le réel, et ce que pour nous est invisible, ce qui pour nous n'est pas su consciemment, nous semble irréel, alors que c'est le réel. C'est pour ça que c'est très difficile à se figurer, hein, intérieurement. Mais comme je l'ai dit au début, la dualité peut se perpétuer seulement parce que nous oublions que nous sommes un. Si nous nous rappelions maintenant avec assez de puissance que nous sommes un, il n'y a plus de dualité, c'est terminé. Parce que notre esprit est puissant. Donc c'est ce rôle de dualité, c'est une manière, un levier accompagné de l'aide du Saint-Esprit qui a un pied entre les deux mondes, qui est le seul à voir à la fois le monde de l'homme et le monde réel, une manière de revenir à toute vitesse à la maison. Il semble que ça se passe en ce moment. Hein, dans la conclusion de cette dualité, ce qui nous est rapporté aussi comme l'accélération du temps qui amène à finalement la disparition du temps. Si le temps s'accélère infiniment, au bout d'un moment, tout sera dans l'éternel maintenant. Hein, il n'y aura plus d'après et d'avant, puisque ça, tout se passera dans un point. Maintenant, on est dans une ligne temporelle. Imaginez que cette ligne s'accélère, se rétrécissent à tel point que ça devient un point, ben, il n'y a plus d'avant et il n'y a plus d'après. C'est ce qui se passe dans le monde des âmes, hein, et dans le monde des esprits, qui sont toujours dans l'illusion, mais qui ne sont pas dans le corps. Eux ne vivent pas la ligne temporelle qui dit « je me rappelle de ça il y a 10 minutes » ou « je dans 10 minutes, place de la République hein, ». Le temps chronomètre, le temps calendrier. Donc, les esprits ne vivent pas le temps, hein, sont dans le non-temps. Il n'y a pas de ligne temporelle. Mais nous avons des lignes temporelles qui présupposent un passé et qui présupposent plusieurs potentiels pour différents futurs potentiels envisageables. Alors, dans l'accélération des vibrations, ce phénomène du temps va se concrétiser, se synthétiser, en un seul point, et ça deviendra, semble-t-il, l'éternel maintenant. Donc, ça a déjà beaucoup de puissance, l'éternel maintenant. Hein. Si vous connaissez le livre de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, vous dégagez beaucoup de mental lorsque vous n'êtes plus dans le passé, quand vous ne projetez plus dans le futur. Hein. Quand vous êtes en ce moment en train d'être présent à la respiration, en train d'être présent à chaque mot qui est dit, et Eckhart Tolle va plus loin, en étant présent à l'espace sous-jacent sur lequel les mots sont posés, imaginez la puissance de cette phrase. Vous êtes présent à l'espace sous-jacent dans lequel les mots, sur lequel les mots sont posés, qui sous-tend les mots qui sont posés. J'ai trouvé ces mots extraordinairement puissants. Quand vous êtes dans cet instant présent, toutes les tergiversations du mental, qui fonctionnent énormément avec les mémoires du passé et avec les projections du futur, se calment. Et il n'y a plus que ce qui se passe maintenant hein, qui existe. Donc l'accélération des vibrations peut nous amener à ça, hein, à déconnecter le mental et désactiver cette partie de l'ego qui crée le temps. Parce que ce temps-là, il est illusoire, les esprits ne le vivent pas. C'est notre fabrication, le temps. Et on nous dit que c'est important de fabriquer le temps pour nous, dans la dualité, parce que ça sépare l'effet de la cause. Si la cause et l'effet n'étaient pas séparés par quelques jours, quelques mois, quelques années, c'est-à-dire je suis dans l'abondance, mais ça ne se matérialise pas maintenant, au moment où je l'ai dit, devant mes yeux, alors on oublie, d'une certaine manière, grâce à ce temps, que nous sommes créateurs hein, dans notre vie même humaine, que notre pensée et nos intentions ont des pouvoirs très très puissants. Donc on a créé le temps pour oublier qu'à un moment donné, on a eu cette intention, et parfois quelques années plus tard, il nous arrive une chose qui est exactement en cohérence avec l'intention qui a été donnée à cet instant-là. Et lorsqu'on cultive la présence à soi, le temps qui sépare l'effet, la cause de l'effet peut raccourcir énormément. Et c'est ça la loi d'attraction, hein, qui dit que voilà, je peux influer sur le déroulement des choses simplement par le pouvoir de ma pensée, en les attirant à moi. Voilà, donc tout ça, c'est le jeu, la pièce de théâtre que nous avons fabriquée pour nous donner des occasions de choisir l'amour. Et quand on choisira l'amour tout le temps, alors il n'y aura plus besoin d'ego, il n'y aura plus besoin de temps, il n'y aura plus besoin d'espace, il n'y aura plus besoin de terre, d'univers. Il n'y aura plus que l'amour. Hein. Ça sera le retour à la conscience de la présence de l'amour. Donc, en réponse à ce que tu dis, quand je dis l'égoïsme divin, je ne parle pas de celui de Dieu, puisque Dieu ne connaît pas autre chose que l'amour. Hein. C'est nous, en tant que création, qui imaginons autre chose que l'amour. Et l'égoïsme divin n'est pas une caractéristique de l'ego non plus, parce que, dans ce que j'ai dit, c'est plutôt je pense à moi, ce qui dans le monde peut être considéré comme égoïste, mais en vérité c'est altruiste parce que j'ai envie, indirectement, que ça aide les autres quand je pense à moi. Je me nourris pour redistribuer, mais c'est pour aider hein, que je pense à moi. C'est je remplis mon puits pour ne pas être à sec quand j'ai quelque chose à distribuer à quelqu'un. Voilà en quoi cet égoïsme est divin, c'est-à-dire qu'il est issu de l'amour, c'est seulement en apparence qu'il est égoïste. J'ai parlé.
Moi, pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, j'aimerais lire un tout petit bout de la leçon 39, « Ma sainteté et mon salut ». Ils disent en fait, nous avons dit que ta sainteté est le salut du monde. Qu'en est-il de ton propre salut? Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Un sauveur doit être sauvé. Autrement, comment peut-il enseigner le salut? Les exercices d'aujourd'hui s'appliqueront à toi, reconnaissant que ton salut est crucial pour le salut du monde. Voilà. Quand tu appliques les exercices à ton monde, c'est le monde entier qui en bénéficie. Ta sainteté est la réponse à chaque question qui ait jamais été posée, qui est posée maintenant ou qui sera posée dans le futur. Ta sainteté signifie la fin de la culpabilité, donc la fin de l'enfer. Ta sainteté est le salut du monde et le tien propre. Comment pourrais-tu en être exclu, toi à qui appartient ta sainteté? Dieu ne connaît pas la non-sainteté, se peut-il qu'il ne connaisse pas son Fils? Voilà. Je trouvais que c'était vraiment complètement en cohérence avec ce que tu disais.
Alors juste une dernière phrase mais qui est très très puissante, qui est de un cadeau de Gandhi. Soyez le changement que vous souhaitez être pour le monde.
C'est tout à fait ça. Soyez le changement que vous voulez être
pour le monde. Oui. Voilà, je corrige les idées fausses sur moi-même et je laisse le pardon rayonner dans le monde. Ce pardon, c'est voir les choses en vérité plutôt que les voir sous l'égide d'une pensée erronée. Magnifique. Voilà, tout ça est tout à fait en phase, hein, en adéquation avec ces enseignements du cours miracle. J'avais une pensée qui m'a échappé sur laquelle je voulais conclure. Peut-être me reviendra-t-elle. Oui. La pensée, merci l'esprit, c'est que ce paragraphe que tu viens de lire, Estelle, est un rappel de la vérité. Quand j'oublie la vérité, ce paragraphe est un écho, un reflet. Et le simple fait de lire, c'est comme un mantra qui porte une énergie. La vérité se diffuse, hein, dans mon esprit. C'est comme si entre mon esprit divisé et mon esprit juste, c'était poreux. Hein, je pouvais, même sans y croire, faire passer des choses, juste en les citant. C'est pour ça qu'on cite des mantras, parfois on ne sait même pas ce que le mantra veut dire en sanskrit, et pourtant on le récite, parce qu'en lui-même il porte une énergie qui est au-delà des mots. Donc, lorsque je suis perdu, hein, dans mon ego, lorsque je suis dans les affres du doute, de la confusion, voilà, ma sainteté est mon salut, et je peux simplement lire lentement, et la lenteur est importante, parce que la lenteur permet à l'agitation de redescendre. Lire ces deux paragraphes qui sont très puissants, et ensuite de poser cette question aussi qui est belle, que ferait l'amour à ma place, hein? Et comment je peux m'aimer avec cette situation, malgré cette situation? Comment je peux m'aimer? Comment je peux me rappeler ma sainteté? Comment c'est possible de ne pas aimer une personne sainte? Si je vois Mère Teresa, si je vois toute la bonté, c'est très facile d'aller dans l'amour pour ses bonnes actions. Donc quand je me rappelle ma sainteté, je me rappelle que je peux me porter de l'amour dans cette lumière qu'il n'est pas possible d'éteindre en moi, hein, qu'il est juste possible de voiler ou c'est possible de tourner le regard ailleurs. Mais la lumière est toujours là, hein, de l'autre côté. Voilà, sur ces mots, je vais conclure l'enregistrement. Nous pourrons rester encore un moment si c'est nécessaire ou si c'est simplement voulu, hein, après la fin de l'enregistrement pour échanger de manière plus informelle. Voilà, dans cette joie de l'unité, cette joie qui nous est rappelée régulièrement, dans cette joie que toute l'humanité est une, je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine réunion, hein, qui sera rappelée par email et sur le site Être Plus. Voilà, merci chers frères et sœurs d'avoir été avec nous et je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière.